Papa, non, en 2024, créer un site web n'est plus une galère, c'est même devenu ultra simple, et notamment grâce à des solutions comme Squarespace. Squarespace est la plateforme tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et réussir en ligne, et ce, quelle que soit la taille de leur activité. Vous allez voir, tout y est. Vous pouvez vendre vos produits physiques ou services en un temps record. Vous avez des centaines de templates de sites web canon dans tous les domaines. Vous pouvez créer vos campagnes email. Vous pouvez même vendre votre propre formation en ligne. Donc, si vous voulez donner à votre business toutes les chances de se développer avec un outil à la fois performant et très simple d'utilisation, eh ben, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, à l'occasion de ce partenariat, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. Alors, n'attendez plus et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline. Hello à tous, ici Pauline Néniot et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin. Le Gratin, c'est un podcast où j'interviewe des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. Durant environ une heure, je déconstruis avec elles leur parcours, leurs principes de vie, leurs grandes décisions, avec pour objectif d'apprendre de ces mentors virtuels pour vous aider à vous développer afin que vous puissiez devenir la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, j'accueille sur le gratin Gary Ancens, président et fondateur de Alltricks, l'un des leaders français de la vente e-commerce en matériel de vélo et de running. Si vous voulez dire un petit coucou à Gary, lui dire que l'épisode vous a plu, peut-être aussi, déjà foncez sur le site alltricks.com. On ne sait jamais, vous allez peut-être trouver une pépite. Et puis sinon, évidemment, faites-lui signe sur LinkedIn, là où il est plutôt actif. Je vous mets en tout cas tout ça dans les notes du podcast pour que vous retrouviez les infos. Alors pourquoi est-ce que j'ai voulu avoir Gary sur le podcast? Il n'est pas très connu, vous allez me dire, mais pour autant, j'ai trouvé que c'était vraiment une personnalité remarquable et j'avais justement envie de lui donner de la visibilité, envie de le faire connaître davantage. Et pour ma part, j'ai vraiment non seulement passé un très bon moment, mais découvert une vraie belle personne. À 17 ans, Gary a la vie d'un adolescent tout à fait normal. Passionné de vélo, il passe ses journées à faire des acrobaties sur son BMX. Il se prend des coups, mais il a l'habitude de se relever. Un jour pourtant, la roue tourne et l'accident dont il est victime endommage profondément sa colonne vertébrale. C'est le début d'une nouvelle vie, comme il dit. Hospitalisé pendant un an, il a le temps de réfléchir, de penser, et dès un très jeune âge, prend conscience de la fugacité de la vie. À partir de là, plus rien ne l'arrêtera. Comme une soif débordante de vivre, une envie de faire. Il crée sa première boîte à 21 ans, sans diplôme, sa deuxième à 22, puis après une revente à l'un de ses partenaires, fonde enfin Alltricks.com à 24 ans. À peine 10 ans plus tard, l'entreprise génère un chiffre d'affaires de 60 millions d'euros de chiffre d'affaires et fait vivre une équipe de 150 personnes. Avec, comme je vous disais, un bac en poche impressionnant. Alors non, la vie n'a pas toujours été rose pour Gary. Il a trimé comme un fou, il a vécu des échecs, il a fait des erreurs, il l'avoue, mais la passion, elle, est restée toujours intacte. Avec Gary, on a abordé 1000 sujets qui, je pense, parleront à de nombreux d'entre vous, entrepreneurs ou non d'ailleurs. Les premiers mois de l'aventure Alltricks, avec son bac, 3000 euros en poche et un garage en guise de bureau. La difficulté de déléguer quand on aime faire soi-même et les leçons tirées de son expérience. L'importance d'avoir une vision stratégique claire, en l'occurrence tout miser sur la communauté de fans de vélo et leur apporter l'excellence de l'expérience client pour se différencier face à la concurrence, notamment d'un Amazon. La réalité d'un processus de vente qui échoue, et là je dois dire que Gary a été particulièrement transparent dans des domaines où peu de gens le sont. Puis l'aspect d'un rachat qui aboutit et les enseignements qu'on peut en tirer. La difficulté d'intégrer des managers seniors dans une équipe jeune déjà constituée, un sujet évidemment pas facile. Ou enfin la réalisation. Le métier d'entrepreneur est très similaire à celui d'un athlète, fait d'énormément de sacrifices, d'entraînement, d'erreurs, d'échecs, mais qu'il faut, par moments, savoir aussi prendre du temps pour soi et récupérer. Alors, amis entrepreneurs, équipez-vous d'un calepin, parce que Gary est rentré en profondeur sur de nombreux sujets et nous a vraiment dévoilé, je trouve, des dizaines et des dizaines de pépites qui méritent d'être retenues, voire même d'être diffusées. De l'or en barre agrémenté, vous verrez, d'un humour à toute épreuve. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Gary Ancens. Bienvenue sur le podcast, Gary, bonjour.
Bonjour.
Je suis ravie de te recevoir et pour ma première question, j'ai longuement réfléchi et en fait au final, comme je pense que beaucoup d'auditeurs ne te connaissent pas encore, et c'est un retard qu'on va rattraper, eh bien je voulais commencer par ce que j'ai compris être un peu le début finalement de ta carrière entrepreneuriale et ton accident. Si ça te va, donc je sais que c'est un grand moment pour toi, un moment assez terrible, mais j'ai aussi l'impression que ça s'est révélé être quand même une assez merveilleuse opportunité cachée. Et j'aime assez bien ces changements de perspective. Donc, je voulais t'en parler, que tu m'expliques ce que c'était que ce blessing in disguise, comme ils disent aux États-Unis. Qu'est-ce qui s'est passé exactement et qu'est-ce que c'était que cet accident? Quand est-ce que ça s'est passé?
Alors, j'ai aucune gêne à en parler parce qu'effectivement, j'en garde, c'est assez curieux quand je dis ça, les gens sont surpris, mais un très bon souvenir. J'ai 36 ans. J'ai 4 enfants et donc il y a 16 ans, je pratiquais beaucoup le vélo et j'ai fait une chute lors d'un entraînement, je faisais pas mal de compétitions et je suis tombé le lendemain de mon anniversaire de mes 20 ans de 4 mètres sur la tête.
Comment tu tombes de 4 mètres sur la tête? C'est quoi, tu faisais des... genre t'étais dans un halfpipe?
Je faisais des pirouettes, je faisais des sauts, effectivement.
Ouais. Oui, c'était pas du vélo dans ton jardin.
Non, c'est pratique un peu engagé. Tu parles de halfpipe, ouais. C'est un peu l'équivalent en VTT. C'est effectivement sur des grosses bosses où tu fais des sauts et tu fais des figures.
C'est ça.
Et en fait, bon, je suis un peu casse-cou, donc bon, sans rentrer dans tous les détails, mais je m'étais fait déplâtrer du poignet 2 jours avant une fracture du poignet.
Et tu dis, allez, j'y retourne.
Je fête mes 20 ans la veille et je me dis, j'y retourne, un peu fragile. Et en fait, je bascule en l'air, j'essaye de redresser mon vélo avec le poignet fragile qui me dit non. Et je pars en vrille et je tombe la tête la première au sol. Donc casque intégral, protection intégrale. Et sur le coup, très sonné, grosse douleur, mais j'étais souvent tombé. Ça fait partie du sport. Ouais. Je me dis, bon, je suis sonné, je vais me calmer, mais ça a l'air d'aller. Et en fait, j'essaie de joindre mes parents pour aller à l'hôpital quand même. Je n'arrive pas à les avoir à ce moment-là.
Ouais.
Et ma petite amie de l'époque vient me chercher. Il m'emmène à l'hôpital et là, tout refroidit. Je ne sens plus mes jambes.
Ah.
Et on m'annonce que j'ai 3 fractures au niveau de la nuque, donc 3 cervicales et une dorsale.
D'accord.
Voilà.
Mais donc, tu n'arrivais plus à marcher, tu n'arrivais plus à...
Ah non, alors donc, du coup, j'arrive dans un premier hôpital. Ils ne sont pas compétents pour pouvoir me traiter. Donc, je suis transféré, ouvert par les motards, en ambulance, etc., sur Paris, dans une coquille. On attend 3 jours avant de m'opérer pour avoir de la place au bloc. Et donc, j'ai 11 heures de bloc pour la dorsale. Et in fine, les cervicales étaient tellement en mauvais état et déplacées qu'ils décident de me poser ce qu'on appelle un halo, ce qui est assez rare. Donc, on te perfore une première couche de boîte crânienne. En fait,
oh
on te pose des pointos sur le crâne pour mettre la tête en traction. Et donc là, c'est un moment de vie assez intéressant, avec du recul quand ça va mieux. En fait, tu as 20 ans, tu es en pleine force de l'âge.
C'est ça.
Les copains,
tu te prends
invincible, le sport,
en plus à ce moment-là.
T'es invincible. Et puis du jour au lendemain, tu te retrouves alité à ne pas pouvoir te tourner dans un lit parce que t'es fixé avec la tête qui effectivement est appareillée avec ce fameux halo, fixée avec une corde à un poids à l'extrémité qui passe par une poulie. L'idée étant de tirer la tête pour qu'elle soit en traction et que le cou en fait est une position parfaite pour pendant 3 semaines, 1 mois, consolider.
Quelle horreur. Enfin, quelle horreur.
Donc, tu as le temps de réfléchir.
C'est bien, mais ouais, tu as un peu le temps de réfléchir. Justement, alors, donc tes 3 semaines, c'est ça, minimum alité complètement. Mais quand on dit alité, c'est-à-dire que vraiment, tu ne peux à peine bouger
alors,
le petit doigt.
Tu restes 3 semaines complètement alité. Et ce qui est assez dingue, c'est que en 3 semaines, tu perds la marche. Donc, pendant 3 semaines, c'est comme un lion en cage, hein, c'est une horreur. Alors, tu es sous morphine, etc. Donc, le temps passe quand même un peu plus vite. Mais surtout, en fait, la première chose que. C'est là où en fait, tu reviens au basique. Et c'est là où c'est hyper intéressant parce que moi, j'ai souvent tendance à dire, en fait, ma vie a commencé à ce moment-là. Tu ne peux pas boire et manger normalement parce que tu as des risques d'étouffement parce que tu es allongé. Donc, la première chose que tu vas remanger après 3-4 semaines, c'est un moment mais incroyable de saveur,
tout moment en fait de la chance que tu as de juste pouvoir manger.
Et tu reviens vraiment à la base des choses. Et je me souviens, je suppliais moi le corps médical et les kinés de me redresser. Et je me souviens le jour où on me remet en position assise après quelques semaines. Et en fait, je les supplie aussi vite de m'allonger à nouveau parce que tu perds complètement l'équilibre et donc tu as des nausées tout de suite, t'as la vue qui se réduit, etc. Enfin, c'est assez spécial. On t'apprend à remarcher, tu tombes dans les virages parce que tu perds l'équilibre. Enfin, mais en fait, c'est une épreuve. Mais c'est un moment que j'ai trouvé en fait incroyable et je pense que ma vie ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui si je n'avais pas eu cet accident. J'ai le fils d'un de mes actionnaires qui m'a posé une question assez compliquée il y a quelques mois, qui me dit « Gary, si tu devais réécrire cette journée-là, est-ce que tu la réécrirais différemment ?» Donc, j'ai marqué un temps d'arrêt, je dis « Bon, en fait non, parce que c'est ma vie. » Et c'est ce moment-là où tu attends certaines personnes qui vont venir à ton chevet et qui ne viennent pas. C'est ce moment-là où il y a des gens que tu n'attends absolument pas
qui
sont là. C'est là où tu trouves, tu te rends compte du dévouement, de l'implication des gens dans les hôpitaux, le service médical, etc. Incroyable. C'est un moment de vie. C'est une école.
Écoute, je souhaite à personne de le vivre, mais c'est vrai que quand on parle, une fois de plus, ce terme de blessing in disguise qui n'existe pas tellement en français et qui veut dire, je pense, je sais pas, ouais, une opportunité cachée, ça fait sens. Enfin, dans ce que tu dis, ça fait complètement sens.
Oui, encore une fois, j'ai eu de la chance. Hein, aujourd'hui,
marche. Oui, t'aurais pu. Finalement, t'as peu de séquelles, c'est ça.
J'ai vu voilà, les écorchés qui ont eu beaucoup moins de chance.
Bien sûr. Et donc, ce moment qui est un moment, tu dis, un peu ta deuxième vie, le jour où tu as changé de vie, parce que aussi, moment d'introspection très fort. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui se passe justement dans ta tête à ce moment-là, au-delà de tout ce dont tu te rends compte, du fait que voilà, tu prends conscience des petits plaisirs de la vie, des personnes qui comptent pour toi, etc. Mais si je ne me trompe pas, j'ai lu en tout cas pour avoir fait mes petites recherches sur toi que ça a été un moment cliquet où, si ce n'est tu décides d'être entrepreneur, en tout cas, tu commences à voir des opportunités. Peut-être un petit peu plus tard quand tu étais ensuite en rééducation, mais est-ce que tu peux m'expliquer justement toute cette période au niveau, on va dire, à la fois émotionnel et puis même juste intellectuel, qu'est-ce qui se passe dans ta tête et qu'est-ce qui fait que ça va t'amener à ce point d'orgue qui est la prise de décision de créer ta boîte?
Alors écoute, j'étais à la fac moi à ce moment-là, donc en l'occurrence j'étais en STAPS pour faire du management dans le sport, parce que j'aimais déjà beaucoup le domaine du sport, donc j'arrête tout. Évidemment, j'ai jamais été très scolaire. Donc, j'ai dû quitter le lycée un peu avant la fin de la terminale. J'ai passé mon bac en candidat libre. Je l'ai eu au rattrapage parce que j'ai négocié avec un professeur à l'oral pour avoir un 11, parce que c'est ce qu'il me fallait pour avoir la moyenne.
Déjà, et bon négociateur, au moins.
Là, je sais pas, parce que je l'ai un peu agacé sur le coup, mais j'ai eu un 11.
T'as eu ce que tu voulais, au moins.
J'ai eu un 11. C'est un peu les histoires de la vie, c'est que j'étais a priori pas vraiment fait pour avoir un parcours scolaire studieux et classique. Et là, cet accident marque un arrêt assez
forcé,
brutal
quoi.
Et forcé. Et après quelques mois, la rééducation, donc tu as beaucoup de temps pour réfléchir, je découvre l'ordinateur à ce moment-là. Je me souviens que un professeur du lycée, en l'occurrence, réunit des élèves qui se cotisent pour m'offrir un PC. Parce que les journées sont longues à l'hôpital et en centre de rééducation. Hyper sympa. Je découvre l'ordinateur. Je me trouve dans certains centres de rééducation à apprendre après à traiter Word et Excel à des personnes un peu plus âgées qui sont là dans le centre avec moi. C'est rigolo. Et puis, je sors de là et je me dis, effectivement, je suis pas scolaire. Je sors d'une grosse épreuve. Il y a des trucs hyper intéressants à faire. Je suis dans une période où j'ai envie de faire des choses, mais j'ai quand même besoin de rester beaucoup chez moi parce que je dois être allongé une partie de la journée. J'ai des kinés qui viennent, donc je suis pas forcément toujours hyper présentable. Et là, je me dis, mais en fait, je pourrais bosser de chez moi. Et on est en 2003. Et alors, c'est pas les débuts du e-commerce, mais on est quand même pas très loin. Et je creuse un peu dans cette direction-là et je me dis, en fait, c'est génial. Parce qu'à partir du moment où au téléphone, t'as un peu d'aplomb et tu présentes bien, que tu sois en charentaise chez toi et en pyjama, personne ne le saura jamais. Ouais. Le seul rendez-vous hyper important, c'est d'être à la levée de la poste à 16h30 au bureau de poste. Et même si tu y vas en charentaise, ils prendront tes colis quand même.
C'est clair.
Et donc, je monte un premier site de e-commerce en 2004.
D'accord.
Et exactement dans ce modèle-là. Donc, je pilote tout depuis...
De chez toi avec tes charentaises, quoi.
Exactement, voilà. Bon, en l'occurrence, j'ai pas de charentaise, mais je trouve que ça faisait bien dans le petit.
Tout à fait. Je te visualise très bien. Mais du coup, justement, c'est intéressant parce que tu as gagné un prix, on en parlait juste avant de commencer, qui s'appelle La victoire des autodidactes, parce que finalement, tu es autodidacte. Et moi, c'est un sujet qui me passionne parce que je suis assez heureuse de pouvoir montrer qu'on n'est pas obligé d'avoir fait HEC pour faire une carrière absolument incroyable et avoir un très grand succès. Et donc, cette période du début m'intéresse particulièrement parce que t'es quand même pas dans une situation facile, physiquement quand même un peu atténué, j'imagine. Et puis pas d'expérience ni dans le web, ni dans le monde du business. Enfin, j'ai envie de dire, tu connais pas grand-chose. Alors, tu connais le monde du vélo, puisque t'en faisais. Tu connais certainement d'autres choses, mais je veux dire, c'est pas évident quand même de se dire, il va réussir à créer une boîte, quoi. Comment tu fais? Comment tu te renseignes? Enfin, c'est quoi à l'époque? Ça ressemble à quoi cette première année de mise en place?
Alors, écoute, je pense que j'ai toujours une fibre commerciale. J'ai toujours adoré acheter des trucs en gros, mais même au lycée, et les revendre en épicerie à des copains, etc., pour essayer de financer ce que je m'étais acheté pour moi. J'avais effectivement cette connaissance sur le marché du vélo, mais alors j'étais un peu rancunier quand même après mon accident, donc c'était ma première boîte.
C'est vrai.
N'était pas sur ce domaine-là. Et en fait, tout simplement, j'étais un peu déçu, mais je me rends à la chambre de commerce. bon, je vais les citer, pardon pour eux, mais de Versailles.
D'accord.
Et là, je ne sais plus comment ça s'appelle, j'accède au bureau de création des entreprises où tu es censé avoir des experts qui sont là,
ouais,
pour t'aiguiller et t'éclairer
minutes,
sur tout
désolé,
ce que tu as
hein,
à faire.
Dame, mais...
C'est chaotique.
Ça n'a pas énormément changé, malheureusement. Mais
voilà, bon. c'est tout le... On est complètement dans la théorie et la pratique, quoi. Donc, c'est très éloigné. Et donc, je finis par creuser sur le web. Regarder les histoires de création d'entreprise, les débuts, comment ça fonctionne, etc. Et je me dis, bon, le meilleur moyen de progresser, en fait, et de comprendre, c'est d'y aller, quoi. Mmh. Et je comprends assez vite, effectivement, quand tu fais ça depuis chez toi, et c'est la beauté, en tout cas, à cette époque-là, du e-commerce quand tu le lançais, c'est que de lancer une boîte, ça coûte quelques centaines d'euros.
Ouais.
Et si elle tourne pas, ça te coûte pas grand-chose. Tu commences à payer quand tu fais du chiffre et que ça tourne. Donc, bon, a priori, c'est un bon problème. Et donc, je me lance.
C'était quoi ta première boîte déjà du coup?
Écoute, je lance un site de e-commerce. J'avais trouvé un grossiste qui revendait des iPods reconditionnés.
D'accord.
Parce que des palettes pouvaient tomber dans des entrepôts et la Fnac ou Darty les prenaient pas en rayon parce que les boîtes étaient cornées, mais le
ouais.
produit était impeccable.
Ouais.
C'était presque l'avant reconditionné.
C'est clair.
Et donc j'avais besoin d'un site de e-commerce et je sollicite un copain à qui je dis, écoute, si tu me fais un site, je t'offre une Xbox.
Bon deal.
On deal. et donc, je lance le site et je parallélise avec eBay parce que je n'ai pas de trafic.
Ouais.
Et bah donc, non. Ça avance. Et bon, mes sources se tarissent
eBay qui était
moment.
Énorme à l'époque en France parce qu'il y avait beaucoup moins Amazon, etc. Quoi.
Ah ouais, ouais. Non, puis c'était hyper rigolo parce qu'effectivement, ouais. tu fais des ventes tout de suite. Tu apprenais à gérer la relation à distance avec... Et c'est là où c'est une réelle école. Et je ne regrette absolument pas ce moment-là parce que je fais ça, je pense, pendant un an et demi. J'apprends à gérer ma compta, à contacter des fournisseurs,
à mettre
mon père à l'époque en gérant sur le cabis pour que ça fasse un peu plus sérieux
ouais.
parce qu'il est plus âgé que moi avec du haut de mes 21 ans. Je suis son assistant, je commande, etc. Et je construis tout ça. Et ça s'éteint. Et puis après, je me dis, bon, je pourrais peut-être faire un truc un peu plus sérieux. Donc, je pars sur une autre boîte après dans des véhicules motorisés type scooter, etc., importés de Chine. Et on fusionne avec un fournisseur que j'avais en France au bout d'un an.
D'accord.
En un an, moi tout seul, j'avais fait quasiment 1 million d'euros de chiffre d'affaires hors taxe, 10% de résultat net, tout seul.
Incroyable.
C'était assez rigolo. Alors j'avais des copains qui passaient au bureau, il y en avait partout. Enfin, c'était vraiment.
C'était en mode débrouille totale, quoi.
Ouais, mode débrouille totale, start-up. T'arrives un coup à 7h du mat, un coup à 9h, tu dors quasiment au bureau, mais c'était génial.
Tu te sens submergé quand même à l'époque, parce que je pense que c'est beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent. Et toi, ce qui m'intéresse, c'est que justement, t'as eu ces premières expériences où t'étais tout seul, tu le faisais un peu en mode débrouille, tu vois, le petit entrepreneur, négatif, mais voilà. Et maintenant, bon, on va en parler après, mais après, tu as créé quand même une boîte qui a été vendue à Decathlon et qui est plus que solide. Est-ce que cette période-là t'en garde justement, donc je le sens, en tout cas une émotion positive, en tout cas ça avait l'air d'être assez sympa au final, mais est-ce que quand même au niveau de la charge de travail, du côté submergé, du fait que t'étais tout seul, des enseignements que t'as ensuite implémentés quand t'as voulu créer Altrix?
Oui, alors globalement en fait tu te sens pas submergé parce que tu entreprends aussi, tu le sais, en fait quand t'es passionné par ce que tu fais et que tu vois que tu construis et que ça avance.
Bah, c'est vrai que 1 million en un an tout seul, tu devais être content quand même.
Oui, et puis tu t'es chez toi et puis après tu prends des bureaux et ça s'organise et au début tu passes sans arrêt des coups de fil et tu prends 9 râteaux sur 10 et après on commence à t'appeler, t'as de l'entrant. Donc la vie change, c'est très différent et c'est hyper grisant comme truc, c'est extraordinaire. Après c'est vrai que ça a été, je pense que le pire engagement en termes de charge de travail et de pollution personnelle, c'était le début d'Altrix.
D'accord.
Parce que c'est allé encore plus vite et je me suis donné et je regrette rien. Et j'ai une chance extraordinaire, c'est que j'ai entrepris très tôt. Donc j'avais pas encore d'enfant, j'avais pas de charge sur ma vie personnelle importante. Et ça, c'est une vraie chance.
Bien sûr.
Et puis, je pense que j'étais jeune et un peu fougueux et c'était une chance aussi. Et si tu me permets de faire la transition
je n'attends que ça.
À ce moment-là, j'ai envie de faire autre chose en 2008, donc j'ai 25 ans, et je recommence à faire un peu de vélo là. Et c'est sympa, et bon, je la fais courte, mon vélo a besoin d'être remis en état parce que ça fait quelques années qu'il n'a pas roulé. Je vais voir une première boutique et on essaie de me vendre un truc dont j'ai pas besoin alors que je m'y connais un peu, donc je me dis bon, pourquoi je vous mens pas. Je pars dans une seconde boutique et je suis pas hyper bien reçu. Et je sors de là et je me dis waouh, intéressant. Alors moi le physique c'est pas un truc qui m'attirait particulièrement à la base, même si on pourra en reparler, l'omnicanal maintenant est hyper excitant chez nous, mais et je me dis mais moi qui adore le digital maintenant, est-ce qu'il n'y a pas une place pour un spécialiste du vélo en ligne? Et je rentre chez moi, je fais une étude de marché à l'arrache, je bricole 2-3 trucs avec 3 bouts de ficelle et un rouleau de scotch et je me dis ok, j'y vais.
Il y a un truc quoi.
Voilà, et donc je lance Alltrix. Donc je devance une éventuelle question, parce qu'on me dit pourquoi Alltrix souvent, alors c'est une marque.
Vas-y, j'avais pas prévu, mais
non, bon, pardon, bah, j'y vais quand même. Trix, c'est un terme qui est souvent utilisé dans les sports alternatifs pour parler de figure.
Bien sûr, ouais.
Je démarre avec du BMX, du vélo de descente, etc. Alltrix, bon voilà, ça sonnait pas mal. La marque naît. Et
puis bon, on le dit jamais assez souvent. Enfin, je pense que c'est beaucoup des journalistes, excuse-moi, qui te posent la question, mais en fait, qui ne se rendent pas compte à quel point c'est infernal de trouver un nom et que trouver un nom dans sa classe qui ne soit pas pris, c'est pas si simple et qu'il faut quand même se rabattre aussi sur ce qu'il y a. Il y a quand même une réalité.
C'est pas faux. C'est pas faux. Et donc en mai 2008, je lance Alltrix depuis le garage familial comme j'ai toujours fait. Et voilà, je suis toujours aux commandes aujourd'hui tant que CEO de cette belle histoire de mon point de vue.
Donc on va excuse-moi revenir un petit peu plus dans le détail quand même de cette histoire. Donc tu te dis OK, il y a cette opportunité et tu me dis je fais une petite étude de marché à l'arrache. Est-ce qu'on peut s'apesantir un tout petit peu là-dessus au sens où une fois de plus, j'aimerais comprendre surtout que tu m'as dit précédemment que ça a décollé hyper vite. Concrètement, c'est quoi les 6 premiers mois d'Alltrix? Qu'est-ce que tu fais? Sur quoi tu te concentres? Enfin, c'est quoi les conseils que tu peux donner, parce que finalement, tu l'as bien fait d'après ce que je vois, à quelqu'un qui se lance tout seul en plus, de son garage, sans argent, enfin, sans trop d'argent si je ne me trompe pas.
3000 euros.
Voilà, donc quand même une somme qui est plus que réduite. C'est quoi tes grands focus et qu'est-ce que... Parce que tu avais quand même ces quelques expériences qui t'avaient certainement aidé avant, mais... Comment tu te lances tout de suite? C'est quoi tes étapes et c'est quoi ton point d'ancrage? Tu te dis, OK, je dois avancer là-dessus.
Effectivement, l'étude de marché est assez rapide. Elle se résume à est-ce qu'il y a des concurrents déjà en place? Quelle est la taille de marché? Il faut remettre ça dans le contexte. On est en 2008, donc tu as quand même accès à beaucoup moins de data à l'époque que tu n'en as aujourd'hui. Que je ne cherche pas d'excuses, mais effectivement, je pars avec quelques chiffres seulement. Mais je suis persuadé que le côté sport déjà à l'époque, communautaire, peut vraiment... permettre d'aller chercher une taille de marché et une taille de business assez, assez importante.
Tu avais vu des boîtes, peut-être US ou anglaises ou même d'autres pays, je ne sais pas, qui faisaient quelque chose de similaire ou dans un autre secteur, tu vois, mais qui existait, qui pouvait te prouver justement que
ah
ça...
Ah oui, tout à fait. Et on a toujours, en l'occurrence, un concurrent anglais, enfin deux concurrents anglais qui ont fusionné depuis, qui étaient déjà existants à l'époque.
D'accord.
Et qui, histoire assez classique hein, d'ailleurs, s'empare d'un magasin, les parents gèrent un magasin, les enfants reprennent l'affaire, digitalisent en 99-2000 le business, et les concurrents anglais dont je te parle là font 400 millions d'euros en ligne aujourd'hui. Donc j'avais pas tous ces chiffres-là à l'époque, mais je voyais que ça frétillait, que ça bougeait, et puis t'avais beaucoup de forums à l'époque où on parlait de ces sites-là, et je constatais que les consommateurs disaient bah, « le problème c'est qu'en magasin, souvent, soit faute de trésorerie ou de surface, l'offre est assez pauvre ». Alors qu'on est dans un business où il y a une profondeur d'offre, mais qui est
monstrueuse.
Et là, je me dis, bon, bah, je tente ma chance. Alors, le problème quand tu parles avec 3000 euros, c'est qu'avoir une offre monstrueuse, c'est un peu compliqué. Voilà. Et donc, je me dis, bah, il faut qu'on soit placé en prix et l'offre va grandir au fur et à mesure. Donc, j'achète 2-3 best-sellers d'après moi. Et comme le site n'a pas de trafic, je les mets sur eBay de nouveau. Donc on en revient à quels sont les enseignements que tu avais tirés de tes précédentes histoires. Et là... Bon,
non, mais en fait, ce que je trouve intéressant, je suis désolée de t'interrompre, c'est au-delà de l'enseignement. Parce que souvent, les gens disent « Ouais, j'ai pas d'argent, comment je vais faire ?» Et en fait, il y a toujours des solutions, mais innovantes, quoi. Enfin, juste, il faut être créatif. Parce que si tu avais, comme tout le monde, juste fait un site internet et essayé d'attendre la vente qui tombe, ben non, elle serait pas arrivée. Alors, encore que AdWords, à l'époque, était quand même assez beaucoup moins concurrentiel. Donc, peut-être que tu aurais pu faire ton chemin. Mais je veux dire, c'est pas non plus on fait un site internet et on attend que ça arrive, quoi.
Ouais, puis à 3000 euros, t'es dans un mode de frugalité qui est extrême. Tu n'en es même pas à dire je vais mettre 100 euros sur AdWords.
c'est clair.
100 euros, c'est beaucoup.
Bien sûr, ouais, non, mais c'est sûr.
Et logique très. Dans les business e-commerce, et on appelle ça à la perf. eBay, effectivement, tu payais à la perf. Tu payais si tu avais fait une vente.
Ouais.
Donc c'était assez séduisant à ce niveau-là. Et bon, il y a prescription maintenant, mais donc je respecte pas vraiment les règles IB à l'époque, celle de dire vous devez complètement, enfin presque anonymiser les colis que vous envoyez et surtout pas rabattre le trafic vers votre propre site si vous en avez un.
Oui.
Évidemment, tous
faut
les colis
un peu pirate, hein, quand même.
Partent avec un flyer à l'intérieur.
Ouais.
Merci pour votre commande. N'hésitez pas pour la seconde à aller directement sur Alltrix.fr. Et en plus de ça, voici un...
Tu vois comme quoi le côté bon élève, finalement,
c'était bien
que tu l'es pas.
Un bon cadeau de moins 5%. Voilà. et en fait, le... Alors, j'ai plus les chiffres précis en tête, ça fait quelques années, mais j'avais identifié que comme était sur un marché communautaire, le bouche à oreille, si tu faisais bien ton job, devait fonctionner. Donc là, on en revient à l'expérience client. Et je commence à faire mes quelques ventes eBay. Je vois que les clients sont très satisfaits de l'expérience qu'ils ont pu avoir avec Alltrix. Donc, je suis ravi parce que je me démène pour ça. Et ils en parlent sur les forums. Et là, tu vois, donc ça, c'est rigolo, tu vois sur ton Analytics les visites de 10 par jour, puis 30, puis 200 qui montent. Donc, on a 3 millions de visiteurs maintenant par mois sur Alltrix. Et donc, au fur et à mesure, bah, l'offre s'est étoffée. Le trafic
rentable à ce moment-là, donc tu achètes, parce que c'était du stock, c'est-à-dire que c'est toi qui t'achetais les produits que tu vendais.
Ouais, parce que l'expérience passait par une livraison hyper rapide, donc j'ai le stock dans le garage. Et alors, ce qui est assez rigolo, c'est que pour nous, c'est vraiment resté un des fondamentaux de la boîte. Donc, la logistique est quelque chose d'hyper important chez nous. C'est internalisé. On a 17 000 m² qu'on gère en propre. On a 60 personnes formidables qui œuvrent au quotidien là-dessus. Avec un cut-off à 18h. Tu passes ta commande avant 18h chez nous, c'est la promesse Alltrix, t'es livré le lendemain.
Ouais, j'ai vu ça, c'est Amazon-like, quoi. C'est exceptionnel.
Bah oui, parce que on a pas le choix d'être à minima au niveau d'Amazon, sinon tu survis pas. Donc, on a progressé, donc ça on le fait en France, on sait le faire au Portugal, en Italie, en Espagne, en Allemagne, au UK maintenant. Et donc oui, les produits sont en stock et en autofinancement avant d'être rejoint par un premier collaborateur qui s'appelle Sébastien et qui est toujours avec nous. Je fais 2 ans tout seul et je fais grandir la boîte à 3 millions en autofinancement.
Incroyable, franchement, ouais. Incroyable.
Bonjour, je pense qu'il y a des histoires.
Non, mais il y en a d'autres, mais seul à 3 millions, c'est quand même assez chapeau.
Et donc, je ne compte pas mes heures, pour revenir à ta question de tout à l'heure. Voilà. Donc, c'est du 8h-23h.
Donc, c'est toi concrètement, à l'époque, tu n'externalises rien, en plus, j'imagine, pour économiser. Donc, c'est toi qui envoies les colis, enfin, c'est toi qui fais tout, quoi.
Ah, mais je
fais la compta, les colis, enfin, le truc.
Je fais la compta, je fais tout, je fais les fiches produits, je vais sur les comparateurs de l'époque de produits qui, au clic, te faisait remonter dans les rankings. Donc, quand j'étais au téléphone avec des clients, sur ma souris, je cliquais. Je cliquais en chaîne pour faire remonter les produits parce qu'ils n'arrivaient pas à identifier les IP à l'époque. C'était assez rigolo. Tous mes produits étaient en tête de liste. Non, c'est des histoires incroyables. Pour faire des économies, la Poste, à l'époque, te fournissait des planches de papier autocollantes pour mettre sur les colis pour expédier.
Oui.
Ce papier-là servait à tout. Donc les factures étaient imprimées là-dessus, puis encore les liasses fiscales, ce qui fait rigoler KPMG aujourd'hui, les liasses fiscales de l'époque sont sur du papier autocollant dans les archives d'Alltrix. Et la Poste, alors merci à la Poste qui nous a beaucoup aidé, on leur a bien rendu depuis, mais nous fournissait aussi des caisses en plastique pour mettre les colis, et j'en demandais toujours un peu plus, et in fine à la fin je gardais des caisses qui me servaient comme stockage sur mes linéaires dans les entrepôts. Voilà, c'était vraiment la frugalité, quoi.
Mais je suis désolée, chers auditeurs, d'insister dessus, mais on est quand même dans un monde de levée de fonds, un monde de beaucoup de financement, etc. Et c'est très bien à pas mal d'égards. Mais en fait, il y a quand même une réalité, c'est que le travail, visiblement, paye. Et là, en l'occurrence, en fait, il y a quand même une capacité de travail et une volonté et une envie, tu vois, de juste faire en sorte que ça marche. Donc, en fait, parce que souvent, les gens disent oui, mais il faut que je me préserve, il faut que je passe mon temps. Mais en fait, au début, quand tu es entrepreneur et que juste tu as envie que ça marche et que tu es tout seul, mais il y a un moment donné où il faut juste, comme tu dis, que tu cliques 2000 fois sur ton bouton pour être en haut du ranking, parce que tu sais que c'est ça qui va faire que tu vas avoir ton business, quoi. Quel est le moment où tu dis « Ok, maintenant, il faut que je recrute et il faut que je commence », je ne sais pas si tu te le formules comme ça, mais il faut que je commence à me structurer un petit peu parce que c'est super ce que je fais, mais en fait, il va falloir que j'arrive à me démultiplier, ce qui est souvent le grand problème des entrepreneurs qui sont bons en exécution. C'est qu'en fait, ils n'aiment pas d'ailleurs déléguer et qu'ils n'aiment pas se démultiplier. Est-ce que ça a été d'ailleurs un problème pour toi et du coup, comment est-ce que c'est venu? Tu me parlais de ce premier recrutement. Comment tu as scalé, si j'utilise le terme, mais quelles sont un peu les étapes que tu as mises en place pour réussir à commencer à croître de manière un petit peu plus structurée?
J'ai ce déclic, oui, au bout de 18-24 mois.
t'as un truc dont tu te rappelles qui a été à l'origine de ce déclic, justement, un burn-out, un moment où t'en as marre, un truc où tu dis non, mais en fait, je vais pas pouvoir tout faire tout seul.
Non, alors j'ai eu des moments plus durs plus tard, mais pas à ce moment-là. Je pense que j'avais tellement d'énergie emmagasinée avec le sport que je faisais avant et que je ne pouvais plus faire, que j'avais un besoin absolu de me défouler et de mettre de l'énergie dans quelque chose. Donc, effectivement, tu disais à ce moment-là, tu te donnes à fond, cœur et âme, etc. Enfin, pour moi, c'était vital parce que j'avais arrêté les cours. Il fallait quand même que je me trouve un job, donc j'étais en train de construire mon job. Je m'investissais beaucoup. Ça grandit vite et je me dis, bon, ça grandit vite, mais je suis qu'un homme et les journées ne font que 24 heures. C'est et si je ne m'entoure pas, d'une, pour qu'on soit plus de force vive à pouvoir faire grandir la boîte, et deux, je ne sais pas tout de compétences, ça ne va pas fonctionner. Donc, le premier déclic arrive à ce moment-là. Et après, ça s'est fait assez vite parce qu'en fait, tu es dans un tel climat start-up, familial, énergie où tout le monde s'investit que... T'es pas, on entend souvent que les RH c'est un vrai sujet. Là t'es dans un, c'est une bande de copains en fait. Et on s'éclate, on prend tous du plaisir et les chiffres doublent d'année en année. Et on pourrait y revenir aussi, mais tu vois c'est assez rigolo parce que in fine au bout de, je crois que c'est 3 ans ou 4 ans, c'est un fonds d'investissement qui nous appelle. C'était pas sur la roadmap et c'est Partech.
Ouais.
Partech nous appelle et.
Oui, t'avais pas prévu de lever des fonds quoi.
Non, j'avais pas prévu de lever des fonds et j'avais une vision assez négative de ça. Par mes connaissances, hein, très clairement. Et bon, c'est l'effet un peu inversé, c'est qu'on nous sollicite.
C'est toujours mieux d'être sollicité dans ce genre de cas,
c'était
en tout cas.
C'était très flatteur.
Ouais. Voilà. Et donc, tu me dis bande de copains. Ça a été dur quand même pour vous à gérer la croissance rapide ou pas? J'insiste un peu dessus parce que je sais que pour beaucoup de gens, c'est un réel problème. Et quand on passe en aussi peu de temps de quasi zéro à... Vous faites combien de chiffre d'affaires maintenant?
On va faire 80 millions cette année.
Voilà, 80 millions, c'est quand même une croissance plus que rapide. Quels ont été pour toi les grands facteurs clés de succès peut-être, tu vois, de votre développement et, et justement du fait que vous ayez réussi à gérer cette croissance en gardant en tête en plus que vous avez internalisé la logistique, quoi, ce qui est quand même un gros morceau.
Ouais, les clés de succès, c'est pas évident comme question parce que... t'es tellement pris dans ton truc et t'as pas le choix, de toute façon, faut que ça avance et que ça progresse. Je pense que ça a été toujours se dire que c'était des bons problèmes. Même quand t'es acculé par la fatigue, mais tu peux pas te plaindre quand le business tourne.
C'est
donc
sûr.
Je disais une bande de copains parce qu'en fait, on est tous devenus copains et j'ai recruté aussi beaucoup de copains. J'ai recruté Jocelyn qui était mon surveillant au bac. J'ai recruté quelques années plus tard Stéphane, notre DAF,
ouais,
qui est un centralien. Un soir, on buvait du punch en servant du punch à la soirée d'un copain qui est une école de musique où on faisait le bar.
D'accord.
Et à qui je dis, mais Accenture, en fait, tu t'ennuies. Enfin, viens dans une vraie start-up. Et il pose une semaine de congé une semaine plus tard pour venir faire un stage.
Ah, génial.
Gracieux chez Alltrix et il en repart pas.
Ouais.
Et tu vois, c'est tout ça. Donc en fait, t'as tellement d'énergie et de positivité que tu sens pas trop la douleur à ce stade-là. Après, pour revenir sur ce que tu disais, effectivement, c'était pour nous crucial d'internaliser la logistique. Et je pense que c'est ce qui a été le plus compliqué à gérer parce que c'est un business de surface, de capacité, de scalabilité. En 11 ans, je crois qu'on a déménagé 12 fois. Et les premières années, on déménageait 3 fois par an.
Quel enfer! Sachant que c'est un projet en soi, quoi, un déménagement, quand tu as en plus à gérer ta boîte, c'est monstrueux.
On déménageait la nuit.
Quelle horreur!
Alors, évidemment, à l'époque, les règles de sécurité, tout ça, ouais, c'était assez olé olé, c'était très start-up, mais on s'est éclaté. Enfin, j'ai des collaborateurs qui étaient là au début, puis qui sont partis sur d'autres projets depuis, et quand on se revoit, on reparle de ces souvenirs-là, c'est extraordinaire.
Pourquoi, ou plutôt sinon, comment t'es venue la conviction qu'il fallait absolument internaliser la logistique et que tu parlais d'expérience client par rapport à la communauté, ce que je trouve très intéressant comme point. Au-delà de ça, cette rapidité, c'est quand même tellement ambitieux au final. C'est tellement difficile à mettre en place quand on connaît toutes les implications, ça coûte tellement cher que c'est un peu fou quand on y pense. D'où vient cette conviction?
Écoute, ouais, alors en fait, c'était pas un choix parce qu'on l'a fait sous la contrainte à l'époque. On est dans un marché qui est, c'est toujours le cas aujourd'hui, mais à l'époque, qui est peu structuré. Donc, on reçoit des produits où il n'y a pas de gen code, de code EN, etc. Et donc, qui sont tout simplement pas confiables à un logisticien.
D'accord.
Donc,
t'as pas le choix,
on s'impose de le devenir. On bricole au début. Hein. Et en fait, on se rend compte au fur et à mesure que c'est une force extraordinaire. parce qu'en fait, on est capable de traiter des réceptions le jour même et de les réexpédier à J0, parce qu'on est capable d'avoir des traitements de fin de journée qui sont très tardifs, contrairement à ce qu'un logisticien peut t'apporter. Et pour la petite histoire, on est allé tellement loin qu'aujourd'hui, dans la... Alors voilà, Alltrix, c'est une plateforme de e-commerce qui s'omnicanalise avec, si je puis dire,
des boutiques,
avec des boutiques. Mais on a développé des métiers aussi autour de ça et des services. Et notamment, alors souvent sous la contrainte aussi, c'est comment on augmente notre stock avec peu de cash parfois. Et on a constaté que certains de nos fournisseurs, en fait, confient leur logistique à des tiers, à des logisticiens. Et là, on s'est dit, mais nous, on a un outil logistique énorme.
Oui, donc on va le vendre.
On a un directeur logistique qui est extra. Pourquoi on leur propose pas de devenir leur logisticien? Et donc aujourd'hui, pour 35 ou 40 marques, je crois, on est le logisticien.
C'est incroyable.
Donc les stocks sont chez nous. On gère les expéditions pour eux sur Chronopost, Colissimo, vers nos concurrents in fine, hein.
Donc c'est drôle.
Mais on ne paye pas le stock,
ouais.
Et on est capable de l'expédier le jour même. Et donc tu vois, on en a fait une vraie force. Et aujourd'hui, c'est inconcevable pour les équipes en interne de se dire on confierait la logistique à quelqu'un d'autre, quoi. Et je rebondirai juste pour fermer la parenthèse sur ce qu'on évoquait par rapport à Amazon. Parce qu'à un moment, si tu ne le gères pas toi-même, t'es incapable d'aller aussi loin en termes de promesses.
Bien sûr, mais je trouve que bon, après, t'es assez humble, donc tu dis que c'est par contrainte. Je pense qu'il y avait quand même une certaine vista derrière, parce que tu vois, vous êtes certainement projeté sur le fait que ça faisait partie de votre différenciation et que c'était en fait une nécessité. Et quand même, le nombre de boîtes qui s'est planté, justement, parce qu'en fait, ils se sont dit non, mais ça va aller, nous, la logistique, ça nous saoule, on est une boîte e-commerce, on se concentre sur faire des ventes, et en fait, la partie logistique, c'est pas notre problème, on l'externalise. Enfin, honnêtement, elles sont légion. C'est assez rare au final d'avoir fait ça. Il y a quelques boîtes qui l'ont fait, d'ailleurs, en général, qui marchent plutôt bien. Mais c'est quand même un sacré pari, quoi.
Oui, alors j'ai entendu 1000 fois qu'on était des fous, hein, à ce niveau-là. Mais on l'a fait sous la contrainte. Et la deuxième contrainte qu'on avait, c'est qu'on est sur un marché qui est où tu as des disparités en termes de produits qui sont assez importants.
Qu'est-ce que tu veux dire?
Tout simplement, quand
tu vends une roue, c'est pas la même chose.
On a des tout petits produits qui sont de la visserie pour le vélo, par exemple, jusqu'à un vélo dans son ensemble.
Ouais.
Et donc, en termes de contenant, de gabarit, de volume...
Quel enfer.
T'as des écarts très, très différents. T'as des besoins logistiques qui sont tout aussi différents. Des capacités qui sont différentes. Et donc, c'est confier ça à un logisticien, ça coûte une fortune aussi.
Bien sûr.
Parfois, un logisticien sait gérer du petit ou du moyen gabarit et pas du gros. Donc, il faut gérer ça avec deux logisticiens. C'était l'enfer. Donc, mais moi, je regrette absolument pas. Et honnêtement, enfin, je pense qu'il y a des business aujourd'hui qui ont des gabarits très standardisés. Un vendeur de chaussures en ligne.
Bah, même moi, enfin, en joaillerie, si tu veux, ça a un avantage quand même, c'est que c'est assez compact, quoi.
Ouais, voilà. Non, mais on est complètement d'accord. Et tu vends des chaussures. Je trouve ça hyper logique de confier ça à un logisticien. Mais nous, on ne peut pas.
Très clair. Je voulais parler de ton métier de CEO, que tu t'es forgé, que tu t'es créé toi-même. Qu'est-ce qui a été pour toi parmi les plus grands challenges, justement, d'être leader d'une boîte comme ça qui a grandi, peut-être au niveau humain, au niveau, de ton temps. Enfin, est-ce qu'il y a eu des choses où vraiment ça a été dur? Tu as relevé le défi, entre guillemets, mais je peux imaginer que dans cette aventure, ça fait 11 ans, c'est ça maintenant? Voilà, passer de zéro une fois de plus à 80 millions, c'est pas rien. Et le métier change complètement aussi. Quelles ont été pour toi les choses qui ont été les plus difficiles à titre personnel, tu vois,
dans pour réussir à monter toi-même en compétences?
Ouais.
Je pense que la première chose, c'est déléguer. Parce que c'est horrible à quel point on est obtus sur le fait de se dire on fait toujours les choses mieux soi-même.
Ouais.
Et c'est très dur d'accepter en fait de se dire on peut les faire de manière différente, mais c'est pas moins bien. Et puis c'est surtout qu'à un moment tu peux pas tout faire, donc le fait d'essayer de tout faire, ça c'est moins bien parce que t'y arrives pas. Donc déléguer, ça a pas été facile.
Tu t'es fait aider pour apprendre à le faire mieux ou
absolument pas? Non, en revanche je me suis et ça on m'a toujours dit c'est top parce que c'est rare. Alors, je sais pas si c'est le cas ou pas, mais j'ai jamais eu aucun frein à me dire je recrute des gens bien plus brillants que moi sur plein de domaines différents, parce que bon, j'espère avoir quelques qualités, mais je pense qu'il est impossible d'en avoir sur tout. Et donc tous les postes stratégiques chez nous sont occupés par des gens formidables, brillants, et ça je pense que c'est une vraie force. Et quand t'es entouré par des gens comme ça, c'est beaucoup plus simple d'apprendre à déléguer. Donc quand j'ai eu cette démarche-là de me dire « Ok, il y a un moment, on vient de la frugalité, on n'a pas eu beaucoup de sous, on y reviendra peut-être, mais je parlais de Partech tout à l'heure, donc on a fait une levée de fonds avec eux à ce moment-là. » Donc ça, c'est différent parce que tu pars avec 3 000 euros, bon, j'en parle maintenant du coup, mais tu lèves 2 millions, la vie change. Hein.
Ouais, c'est sûr.
Il ne faut pas aller trop vite et se mettre dans le mur. Mais là, je me dis, c'est quand même important d'investir sur des profils un peu plus seniors, plus compétents. Et ça n'a pas été facile, mais ça a été, je pense, vraiment le pari gagnant.
Et ça a été difficile aussi au niveau de l'intégration, parce que souvent, j'imagine que vous étiez quand même déjà, peut-être 20, 30 à ce moment-là. Faire venir des seniors pour prendre un job au-dessus, souvent, c'est extrêmement difficile d'intégrer ces gens dans la boîte, même s'ils sont brillants et qu'ils veulent bien faire. Alors, il faut les aider. Mais cette partie-là aussi, elle a été bien gérée, je vois, mais ça a été un challenge ou pas?
Alors, le résultat est là in fine, mais il y a eu des rejets. Il y a des greffes qui n'ont pas pu prendre avec des profils. Je pense que tu es super, mais c'est compliqué parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Tu as beaucoup d'énergie dans cette start-up.
Et puis le côté familial, un peu, tout ça.
Ouais, et puis à 20-30, tu as encore un côté très sentimental dans les échanges. Il y a de l'émotion, etc. Donc, arriver comme ça dans une boîte qui va vite et puis dire je prends un poste un peu plus senior parce qu'il faut cadrer, il faut structurer les choses. Pour la personne qui arrive, c'est pas facile. Pour les personnes qui accueillent, c'est pas facile. Pour le CEO, c'est hyper compliqué parce qu'il faut gérer tout ça.
Il faut pas faire de l'arbitre non plus.
Ouais. Et donc là, j'ai beaucoup appris parce que j'ai fait des intégrations horribles. Et je pense que j'ai cramé certains profils à cause de ça.
Quelques petits conseils, erreurs, prises de recul sur ce sujet qui, je pense, est peu abordé. À mon avis, il y a beaucoup de gens qui galèrent.
En fait, moi, je suis quelqu'un qui marche beaucoup au feeling. Et donc, à l'époque, je me disais, on en revient à la délégation, en fait, je pense, en partie. Vous voyez un profil, je me dis, le mec est extra ou elle est extra et ça va matcher, c'est sûr. Je suis pas dans la tête de tous nos collaborateurs et fort de cette évidence, j'engage le truc, etc. pour moi. Et la greffe prend pas. Et je pense que le premier enseignement, c'est que sur des profils un peu stratégiques comme ça, surtout que c'est quelque chose qui est hyper génétique chez nous, c'est le collaboratif. Il faut faire des recrutements collaboratifs. Il faut voir à 5 à 10 ces profils-là pour que la sauce prenne.
Ouais.
Pour que dès le début du process de recrutement, les collaborateurs soient intégrés.
Bien sûr.
Je pense que la décision vient d'eux aussi, la porte. Et ça, je pense que c'est hyper important. Et le second point, c'est vraiment sur ces profils-là, réussir à donner de l'oxygène à ces gens-là. Parce que c'est hyper compliqué, je pense, pour des profils un peu plus senior, un peu plus high level, d'arriver dans une boîte où le fondateur est encore là, ou les fondateurs.
Ouais.
Parce qu'en fait, on s'en rend pas compte, mais on prend tellement de place. Et je pense que tu sois bon ou mauvais,
oui.
tes équipes t'aiment parce que t'es le fondateur en fait.
Tu peux être
une bouse.
Non mais
ça peut pas être parce que mais c'est un peu ça, c'est que t'as ce capital sympathie de dire waouh, ouais, il est parti tout seul, chapeau. Et en fait, il faut pas parce qu'à un moment, si t'es plus bon, il faut savoir laisser ta place. Et à ce titre-là aussi, il faut savoir laisser de la place quand tu fais rentrer quelqu'un à bord parce que sinon tu l'asphyxies et ça marche pas, quoi.
Je pense que c'est un excellent conseil, mais c'est vrai que c'est pas évident, je pense, à faire, parce que souvent, quand t'es fondateur, en plus, c'est ta boîte, donc tu veux être au four au moulin, et puis t'as l'impression d'aider en mettant, en mettant la main à la pâte, mais en fait, juste, c'est pire que tout, parce que du coup, tu prends toute la place, comme tu dis. Et... Très bien. On parle un peu de levée de fonds, si ça te va. Donc, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que tu me dis, j'étais pas partie pour le faire, et donc je reçois ce call de Partech, qui est un fonds d'investissement qu'on a déjà cité d'ailleurs plusieurs fois dans le podcast. Est-ce que du coup, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Pourquoi tu te dis, OK, c'est bon, alors c'est 2 millions, donc a priori, c'est plutôt aguicheur, mais pourquoi tu te dis, OK, je vais laisser du capital, parce qu'il y a quand même une contrepartie quand on lève des fonds, pour accélérer? Quel est ton processus de pensée? Pourquoi tu te dis, c'est bon, je veux le faire?
Alors, déjà, je suis d'une nature hyper curieuse. Donc, j'ai cet appel, mais qui est poussé par une personne de confiance, en fait. Alors, je découvre ça plus tard, les histoires de la vie, encore une fois, j'adore ça. Jean-Marc Patouillot, qui est un des managers de Partech, partner exactement, et très ami avec mon expert comptable de l'époque, ce que je ne sais pas. Expert comptable qui était un de mes clients, qui venait au comptoir du petit shop à l'époque, et à qui je grattais toujours un conseil en lui vendant un produit. Et un jour, je me dis, on commence à gagner un peu de sous, il faudrait peut-être le prendre officiellement et le payer, cet homme. Et donc, je commence à travailler avec Richard, et Richard est très copain avec Jean-Marc, et il parle d'Alteryx régulièrement le week-end. Et puis un jour, Jean-Marc m'appelle et me dit « Bonjour Gary, voilà, je suis Partech, est-ce que vous me connaissez ?»« Ben non, je ne vous connais pas, je suis désolé. »
Déjà, le gars, il hallucine, je pense.
On est un fonds d'investissement, etc. Ça vous parle un peu ?« Ben non, pas beaucoup. » « Bon, ben est-ce qu'on peut se rencontrer ?»« Ben oui, je suis curieux, donc évidemment. » Et donc, je reviens au feeling et je rencontre un gars formidable. hyper sympa, hyper accessible, hyper curieux, hyper câblé, à l'écoute, etc., qui comprend le business en 2 heures. Même si avec un peu de recul, je pense que je lui explique le truc de manière très décousue, et qui me dit, écoute, c'est top, réfléchis à l'échange, etc., je te rappelle dans 6 mois, donc aucune pression.
D'accord.
Et puis on se rappelle effectivement en fin d'année, et il me dit, est-ce que tu as mûri un peu le truc? Je lui dis, oui, écoute, c'est une opportunité à laquelle je n'avais pas pensé, mais je pense qu'il y a toujours ce phénomène de taille critique dans le e-commerce qu'il faut aller chercher. Ce leadership qui n'est pas un non-sens, donc grandir plus vite pour être le number one, c'est intéressant. Et effectivement, avec des fonds, ça peut aller plus vite. Et il me dit, je suis biaisé, mais je pense que tu as tout compris. Et avançons dans les négos, quoi. Et pour, juste une anecdote pour te dire à quel point j'ai toujours gardé une relation assez particulière avec Jean-Marc. Je crois que la veille du closing, il me dit, Gary, waouh, on a mis le doigt sur un truc, je suis pas sûr qu'on close demain, il y a un truc qui nous ennuie, quoi. Ah bon? Et il me dit, ouais, on a vu le montant de ton salaire, tu te verses 600 euros par mois. Et il me dit, écoute, avec tout ce que tu donnes et le projet qu'on a, si t'as pas les moyens d'aller au cinéma le week-end, et si tant est que t'arrives à aller au ciné, tu peux pas t'acheter 3 pop-corn, on va vraiment se mettre dans le mur. Donc soit tu t'engages aujourd'hui à t'augmenter maintenant, soit on dit le pas, quoi.
Les mecs sont bons. Hein.
Mais bon,
c'est
super.
C'est en fait pas si peu fréquent maintenant que les actionnaires en fait se rendent compte de la valeur aussi du salaire, voilà, et pour l'entrepreneur. Mais écoute, ça fait plaisir. Et vous refaites une autre levée de fonds après.
Et on fait en tout 3 tours de table.
3 tours.
Donc
ouais.
Effectivement, on relève 2 ou 3 ans, je pense, après. Parce qu'effectivement, on a découvert que la machine tenait quand on mettait un peu plus d'essence à l'intérieur et qu'elle roulait beaucoup plus vite. Donc, on en remet. J'en parle sans gêne parce que je pense que c'est important aussi pour comprendre l'entrepreneuriat et par peur de ces choses-là. Mais donc, boîte rentable les 3 premières années, on lève.
On commence, ne le devient plus, évidemment.
On ne le devient plus parce qu'en fait, on
bah c'est le jeu, hein.
Ouais, mais alors, quand on entend souvent on brûle l'argent, etc. Non, parce que cet argent n'est pas mal investi, mais il est investi lourdement à certains endroits parce qu'on sait qu'on peut accélérer très fort. Et effectivement, je ne sais plus, je crois qu'en 5 ans, on passe de 3 millions à 40. On recrute.
Je pense, honnêtement, je ne dirais pas que c'est impossible, mais c'est quasi impossible d'être rentable avec une croissance comme ça, je pense. Enfin,
non, et pourtant, oui, effectivement. Et alors, je ne sais pas s'il faut être fier, pardon, de ça, mais les pertes ne sont pas si violentes non plus. Quoi. Elles sont contenues, mais ce qui est super, c'est quand tu auras le niveau des pertes et l'accélération en face, il n'y a pas de débat. Enfin, ouais. Faut continuer à perdre de l'argent.
Et à un moment donné, quand même, vous vous dites donc qu'il faut que la boîte devienne rentable, ce qui est souvent le cas quand on amorce en plus une sortie.
Alors oui, alors, et avant ça, en fait, il y a peut-être 4 ans maintenant, on se rend compte que le marché tourne parce qu'on échange avec nos fonds, parce que c'est hyper sympa ça aussi, comme pour s'oxygéner un peu, c'est que les fonds nous consultent souvent sur des dossiers pour dire, bah, tiens, écoute, on a vu ça, qu'est-ce que t'en penses, etc. Et on se rend compte que les valos qui étaient à bloc sur la croissance et le CA sont en train de virer vers l'EBITDA violemment et qu'il faut vite changer.
Aussi parce que quand tu passes à un moment donné un certain seuil, t'es peut-être moins sur du VC mais plus sur du growth ou un truc comme ça.
Complètement, ou... et puis parce qu'à un moment, quelqu'un s'est levé dans une salle et a dit, mais en fait, il y a plein de sites de e-commerce partout, mais qui gagne de l'argent là-dedans? Et tout le monde s'est regardé et a dit, ouais, pas grand monde, et donc ça vaut quoi? Et c'est vrai que t'as quelques pépites qui sont sorties du lot en disant, bah nous on y arrive, et donc là ça a été la sanction. Je pense que ça a été la sanction vraiment pour le e-commerce, et du jour au lendemain en fait, le marché a dit, ok, bah maintenant un e-commerce qui est pérenne, c'est quelqu'un qui s'est démontré qu'il est capable d'être rentable. Et donc gros changement de mindset quand même, hein,
ça c'est
moment-là.
Arrivé en quelle année pour vous?
Je pense que c'est autour de l'année, c'est 2015 à peu près.
Ouais, donc c'est assez récent.
En tout cas c'est le moment où nous on le constate.
D'accord. Voilà,
c'est peut-être plus ancien. Et donc là, on décide de lancer des marques propres pour augmenter nos marges. On n'était pas du tout, on était hyper lean, hein, déjà, on faisait hyper gaffe aux coûts, etc. On rentre dans une logique de cost killing, d'efficience. Et on l'était déjà pas mal, je pense, de manière, c'est assez intrinsèque, mais on devient hyper data driven. Et on se rend compte qu'on est assis sur une mine d'or,
quoi.
Sur d'informations, mais surtout d'amour de la marque de la part de nos clients à travers le repeat business qu'on a. 75%.
Oui, parce qu'en fait, vous avez des personnes qui sont des... C'est comme tu disais, c'est une communauté réellement.
Mais en fait, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure. Parce qu'on... Oui, c'est la communauté, c'est le bouche à oreille. Et en fait, on est sur des domaines de passion. Donc, bon, j'ai rien contre les gens qui vendent des micro-ondes. Tu as moins de forums sur les micro-ondes, oui. Et d'événements sur waouh, qui est le plus
encore
beau.
Encore que Thermomix.
Oui, c'est vrai. 1-0. mais le vélo, la course à pied sur lequel on est. Et puis en plus de ça, t'as plein de profils différents. T'as des challengers, t'as des amoureux du matériel, t'as des gens qui aiment ça parce qu'ils pratiquent en groupe. Donc c'est hyper riche dans les appétences autour de ça. Et nous, il faut savoir que 75% de notre business est généré au quotidien par des clients qui reviennent.
C'est génial.
Donc on a quand même un business très fort.
En e-commerce, c'est tellement... Enfin, je veux dire, c'est juste le Graal, quoi, absolu.
C'est le Graal absolu. Et alors, en 2015, on se dit, waouh, parce qu'on pouvait pas être partout. On était à bloc sur la logistique, on était à bloc sur augmenter l'offre, faire en sorte que le site e-commerce soit plus fluide, plus ergonomique, etc. Bon, les enjeux qu'on a tous. Et là, on met le doigt dans l'engrenage de la data. Et à commencer à mettre en place sur le site des A/B testing, récupérer des KPI sur les taux de conversion, sur les taux de clics, sur les temps passés. Et on améliore les perfs de manière hyper importante. Et en fait, on redevient rentable il y a 3 ans, avec une rentabilité qui ne cesse de progresser en travaillant là-dessus. Donc comme quoi c'est possible, et on est très fiers de ça. Et effectivement, la vie change, parce que là, alors tu deviens autofinançable.
C'est ça, t'es un peu plus à l'aise dans ta maison, quoi.
T'es un peu plus à l'aise dans ta maison.
Tu peux payer ton loyer.
les équipes, moi, tout le monde est hyper fier de ce qu'on fait, parce que c'est vrai que c'est d'autant plus bien valorisant par rapport au travail au quotidien. Et puis la vie change par rapport aux sollicitations que tu peux avoir des fonds ou d'industriels.
C'est sûr. Juste pour revenir sur le point data-driven qui est hyper intéressant... En général, tu es quand même obligé d'atteindre un certain seuil de volume, notamment, tu me parlais de 3 millions de visites sur le site ou de visiteurs sur le site par mois, donc vous avez un certain volume qui le permet. Et vous avez attendu, je pense aussi, peut-être à cause de ça. Mais du coup, vous montez une équipe spécifiquement, parce qu'en plus, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est des métiers qui sont très transverses en général. Ça peut être autant marketing, et puis après, ça va se déverser un peu partout. Comment vous mettez ça en place, juste sur ce point spécifiquement, je t'avoue qu'il m'intéresse à titre perso.
Alors, au tout début, donc, tout notre socle IT est maison. Donc, on commence à bricoler dans le back-office, à remonter différentes statistiques, des basiques. Hein. Alors, ça, c'est plus vieux qu'il y a 4 ans, c'est les montants de paniers, les volumes de commandes par jour, les taux de transfo des paniers, taux de transfo des pages, etc. Et puis, Stéphane, donc, notre CFO, qui est un geek par ailleurs, se lance dans la modélisation et la structuration d'une BI chez nous il y a 4
Business
ans, je pense.
Donc, Business Unit. Business Intelligence, pardon.
On utilise Power BI en l'occurrence. Et là, on commence à remonter différents dashboards. Et il y a 3 ans, on recrute un data scientist et on décide de le mettre en fait au service de tous les métiers. Donc, c'est pas, oui, c'est évident parce que le marketing en a besoin. Non, c'est, oui, le marketing en a besoin, mais la log en a besoin.
Ah oui.
Le service client en a besoin. La compta en a besoin. Et donc, aujourd'hui, on a, je sais pas combien de centaines de reporting qui sont générés automatiquement tous les jours.
Ça, c'est génial.
Et qui sont consultés. C'est surtout ça. Et donc, en fait, aussi bien sur du contrôle facture pour voir quels sont les retards qu'on peut avoir sur les volumes de factures à gérer que la volumétrie qu'on fait sur tel coloris, dans telle région, sur telle tranche horaire, sur la partie e-commerce, on est capable d'analyser tout ça. Et ce qui est hyper sympa, c'est que toutes les équipes ont une appétence immédiate pour la data, parce que je pense que c'est hyper excitant. En fait, tu travailles au quotidien, et c'est ce qui est génial dans le e-commerce, c'est qu'à n'importe quel moment,
tu
appuies sur un bouton, dans la minute, dans l'heure, dans la journée,
tu peux avoir un effet
tous les chiffres, le résultat de ce que tu as produit les jours ou les semaines avant. Donc c'est canon. Donc on l'a structuré comme ça. Après voilà. Si j'ai juste un conseil à donner, c'est un peu malvenu quand je dis on a plus de des centaines de rapports, mais faut pas en avoir trop pour bien les suivre. Mais après quand tu commences à les découper par équipe, c'est pas tant que ça parce que les équipes en ont 5-10 chacune et ça vit bien.
Non mais t'as raison de le souligner parce que je pense qu'il y a souvent un peu une course à la data et le problème c'est qu'après il y a personne qui l'analyse quoi. C'est un peu le souci parfois.
Ça,
tu sais, t'as ces agences qui te proposent un truc, c'est super et puis ensuite bon, il y a plus personne dans la boutique pour en faire quelque chose. pour parler maintenant de, pas la fin de l'aventure, parce qu'elle continue, mais de la nouvelle étape de l'aventure, qui est la vente à Decathlon, si tu acceptes qu'on en parle, qui est hyper récente en plus.
Début septembre.
Ouais. Donc déjà, un grand bravo. Après 11 ans, ça doit faire bizarre. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu le process ? Parce que là aussi, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui se posent des questions, qui créent une boîte en se disant « un jour, je veux la vendre » ou qu'ils la vendent sans même l'avoir forcément anticipé. Mais je trouve que c'est souvent très, très secret, tu vois, très peu transparent. Et je me doute que tu ne peux pas tout dire, mais si tu peux un peu nous expliquer comment ça se passe, est-ce que tu crées un process ? Est-ce que, au contraire, c'est des démarches entrantes ? Un peu, voilà, tu vois, la trame de comment ça s'est passé comme expérience pour toi.
Oui. Alors, je vais commencer par la conclusion, en fait, de ce que je vais dire, c'est que ça se passe toujours au moment où tu t'y attends absolument pas et où tu l'as absolument pas provoqué. Pourquoi je dis ça ? Parce que nous, on est sur un marché qui consolide depuis quelques années. Donc, on a des acteurs qui se rapprochent, qui fusionnent, qui en rachètent d'autres. Et on a vu un paysage concurrentiel. On avait des dizaines de compétiteurs il y a quelques années qui se réduit maintenant à une dizaine de compétiteurs qui sont tous devenus bien plus gros. Et donc, il y a 3 ou 4 ans, on se dit, bon, il ne faut pas qu'on reste sur la touche, il faut qu'on participe à ça aussi. Lançons un process en dual track. Donc, un dual track, c'est par définition deux pistes. Donc, la première, c'est une levée de fonds parce qu'on a un besoin à ce moment-là de façon d'accompagner encore la croissance. Et puis, en parallèle, une porte qui est ouverte pour dire, bah, coucou le marché, s'il y a des gens qui s'intéressent à nous et qui veulent nous proposer un projet sympa, on est là.
Ce qui est aussi un moyen élégant de, si jamais t'as pas de réponse sur
pas
la
réponse,
vente,
dire, on a fait une super levée de fonds. Exactement. Exactement. Et mais en même temps, je suis pas hyper moi convaincu à l'époque que c'est forcément le bon timing pour faire une opération parce qu'on a encore énormément d'énergie pour continuer standalone, parce qu'on n'a pas forcément de cible en tête avec qui on a envie de se marier, de se rapprocher. Mais c'est quand même hyper intéressant de prendre la température.
Ouais.
Et puis ça, tu t'en rends compte à posteriori aussi, mais c'est hyper intéressant d'apprendre.
Bien sûr.
Parce que là, tu pitches pas du tout de la même manière. Tu as des discussions où on dit « Ah bah c'est super, oui, on s'intéresse à vous. » Et puis en fait, tu te fais scruter, ausculter, disséquer pour récupérer ta data et il n'y aura jamais d'opération derrière. Ouais.
C'est ça aussi qui est difficile, c'est qu'il y en a quand même beaucoup qui viennent juste renifler. Quoi.
Et donc là, tu apprends à te protéger, tu apprends à ne pas te défocusser. Parce que ces trucs-là, c'est hyper excitant parce qu'en fait, alors j'en parle simplement, mais je suis hyper content, on va y revenir, mais de l'opération avec Decathlon et je suis hyper impliqué pour faire plein de choses avec eux encore pendant des années. Mais souvent, dans ces trucs-là, tu te dis « Bon, ok, je vais vendre, c'est cool, ça y est, je vais souffler, je vais partir sous les cocotiers 3 semaines, la vie est belle. » Et je pense que tu te défocuses, tu es déjà en train de planer. Ton business, lui, tourne pas tout seul et c'est hyper dangereux. Il faut faire vraiment gaffe à ça. Bon, on en reparlera peut-être, mais on a failli se planter à un moment à cause de ça, de manière assez violente. Et donc, bon, voilà. Donc, on fait ce process-là. On fait une levée de fonds finalement. Bravo, super. et puis, pas du tout dans une logique de se dire, bon, bah, ça y est, on y retourne. On fait un dual track. On repart en process de levée de fonds en début d'année dans l'optique de faire de la croissance externe. En disant le marché consolide.
Nous aussi, il faut qu'on achète.
Ouais, alors effectivement, il y a 3 ans, on s'est dit on pourrait être absorbé, mais pourquoi nous, on n'absorberait pas.
Bien sûr.
On arrive à une taille suffisante, on est organisé et on pense, et c'est challengeant, c'est amusant de pouvoir le faire. Donc on regarde quelques cibles, et en fait, on rencontre Decathlon en parallèle, mais de manière complètement inattendue, et notamment une personne chez eux qui s'appelle Guillaume, qui est un pokemaker. Donc son job, c'est de créer des POC, des tests, des partenariats avec des startups pour énergiser Decathlon au quotidien. Et qui me dit, bah tiens, on pourrait faire un test sur un corner dans un magasin. Donc moi, j'essaie de la faire vite. Hein. On fait ce test dans le corner, ça marche bien. Et histoire de la vie, encore une fois, au moment où on lance le truc, il me dit, écoute, il y a un de nos DG qui est là demain.
Tiens, rencontre-le.
Qui veut te rencontrer, est-ce que tu es dispo ? Oui, évidemment. Et donc, je rencontre Franck, mec incroyable aussi, 30 ans de boîte chez Decathlon, hyper modeste, mais qui a fait 100 000 trucs chez eux. Enfin, incroyable, vraiment une super rencontre. Et qui m'explique qu'il faisait du M&A chez Decathlon il y a quelques années, mais que Decathlon n'en fait plus. Ah, mince.
Dommage.
Bon, j'envoie ma bouteille à la mer quand même, parce que c'est mon job. Donc, je dis, écoute, on amorce un process là, de levée de fonds. Decathlon est une boîte formidable. Si on pouvait vous avoir à nos côtés, je trouverais ça extraordinaire. Bon, la bouteille tombe dans l'eau. Pas de réponse précise à ce moment-là. Et puis en fait, Franck me rappelle quelques semaines plus tard, il me dit « Gary, t'en es dans ton process, en fait ça m'intéresse, est-ce qu'on peut regarder les docs ?» Évidemment, je lui dis bah, « On est à un moment où tu peux complètement rentrer dans le process, Franck, t'arrives pile dans le bon timing. » La vérité, c'est que j'avais reçu des offres de fonds qu'il fallait que je confirme dans les 48 heures, sinon on les perdait.
Merde.
Et donc j'appelle notre conseil qui nous accompagne dans ce process là à ce moment-là, qui me dit mais Gary, je t'adore mais t'es fou.
T'es taré là.
C'est hyper risqué. Decathlon est une super boîte, mais c'est un grand groupe. Les grands groupes mettent beaucoup de temps à se décider. On va se mettre dans le mur et tu vas perdre les offres que t'as des fonds et on va se retrouver sans rien. Et il me dit ça à 21h un soir. Il me dit écoute, dors là-dessus. Viens déjeuner avec moi si tu veux demain midi, si t'es dispo, et on en reparle. Et on se retrouve le lendemain midi, il me dit, bon alors, ben, je lui dis, écoute, t'as eu raison, j'ai réfléchi, j'ai bien dormi, et je suis convaincu que c'est ça qu'il faut faire. Je veux qu'on avance avec Decathlon dans les discussions. Et Decathlon, in fine, est hyper rapide dans sa prise de décision, préempte le tour. Tu connais la suite.
Ouais,
on signe
the
en
rest
septembre
is history, quoi.
Et on rencontre un groupe extraordinaire, hyper humain, hyper agile à sa taille, 112 000 collaborateurs, hein. 12 milliards.
C'est incroyable.
C'est une boîte magnifique et qui, hyper modestement, dit il y a plein de trucs qu'on ne sait pas faire et que vous savez faire, il faut absolument que vous rejoigniez le groupe Decathlon. Super histoire.
Il y a un bouquin que j'avais lu il y a assez longtemps, je sais pas si tu l'as lu, qui s'appelle The Hard Thing About Hard Things de Ben Horowitz. Et en fait, il a une phrase assez marrante. Il explique que la vente en fait d'une boîte, c'est un peu comme dans Moby Dick. En gros, il y a une espèce de baleine qui est au loin et tu la vois passer. Tu sais qu'elle est là et en fait, tu sais que tu l'aimes bien et que tu as envie de la choper. Mais en fait, elle vient, elle ressort, elle va dans l'eau, elle descend. Et puis un jour, tu comprends pas pourquoi tu arrives à tirer une flèche et tu l'attrapes, tu la redaches. Mais en fait, c'est complètement par hasard. Et il dit qu'en fait, travailler avec un grand groupe et finalement s'associer avec un grand groupe et faire une vente, c'est un peu ça. C'est-à-dire que très souvent, c'est un truc qui était là un peu latent depuis un moment, mais qu'en fait exactement ce que tu disais quoi, ça arrive quand tu t'y attendais pas du tout.
Ouais, et puis je connais pas le bouquin mais je trouve que ce que tu dis fait beaucoup de sens. En fait, je pense que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu je sais plus ce que c'est l'expression, suis-moi je te fuis, fuis-moi oui. Je te suis. Quand t'es omnibulé par ça, t'es pas appétissant. Parce qu'on se dit, mais pourquoi ces gens-là veulent absolument se vendre si tout va bien ?
Bien sûr, non, mais bien sûr.
Et nous, là, on n'était pas du tout dans cette optique-là. On était, on est hyper costaud en ce moment, nos marges progressent, on est rentable, on sort 25% de croissance à notre taille, les équipes sont hyper en forme et hyper investies dans le projet. On n'a besoin de personne.
Et là,
t'excites tout le monde.
Je pense que c'est une très, très belle conclusion sur ce sujet. Ça te va si on passe maintenant au crible du gratin, c'est-à-dire mes dernières petites questions un peu plus personnelles. Il y en a une notamment que j'aime bien poser sur les échecs, les moments difficiles. Tu m'en as parlé un peu comme ça, de manière dans l'évocation. Est-ce que tu pourrais me dire quel a été un moment particulièrement dur pour toi et quel enseignement t'en as tiré ?
Donc je reviens à ce que j'évoquais tout à l'heure sur ce fameux process en dual track il y a quelques années. Qui fait naître quand même quelques discussions avec des acteurs qui avaient envie de se rapprocher de nous, et notamment un. Et en fait, on va très loin dans les discussions. On est quasiment à la veille d'un SPA, donc c'est le contrat de mariage. Et donc, comme je l'évoquais, on était en dual track. Et on ne faisait pas une levée de fonds parce qu'on avait envie de lever des fonds. On faisait une levée de fonds parce qu'on avait besoin de fonds. Et on avait besoin de fonds même assez urgemment parce que la croissance était très soutenue. Le niveau de cash était bas chez nous. Et la grosse erreur de ma part, j'embarque quelques top managers avec moi dans la responsabilité, mais on est convaincu que ce truc-là va se faire avec l'acteur avec lequel on discute. Parce que l'équipe est hyper cool en face, parce qu'ils sont tellement engagés, ils ont engagé tellement de frais sur les audits, etc., qu'on se dit bon, c'est sûr. Alors pour la petite histoire, en plus de ça, c'est un closing qui doit se faire début janvier, donc on est à la dernière ligne droite fin décembre, et je crois que le 26 ou le 27 décembre on tombe pas d'accord sur un point et tout crache.
L'enfer.
Voilà. Et blackout du jour au lendemain, on s'appelle plus, terminé. Et là, il y a prescription, mais c'est comme ça qu'on apprend. Et puis, on aurait de toute façon trouvé une solution et on en a trouvé une. Mais on n'avait pas le cash pour payer les salaires de nos collaborateurs. Cela fout un peu mal fin décembre, comme
ouais,
toutes tes équipes viennent de faire leur cadeau pour leurs proches et que tu leur dis C'est la première fois en quelques... Enfin, je sais plus à l'époque, donc c'était en 8 ans. C'est la première fois que ça va nous arriver. On va peut-être vous décaler un petit peu parce que là, on a un trou d'air. Et heureusement, en fait, comme on a toujours fait ce qu'on avait pu dire, on a une confiance avec nos partenaires qui est incroyable. Et je me souviens, j'appelle Hervé, qui est un de nos banquiers. Je lui dis, écoute Hervé, bon Noël, c'était hier ou avant-hier. J'ai besoin d'un cadeau de ta part, une vraie faveur. Et il me répond, écoute, c'est complètement hors de ma délégation sur ce montant-là, mais il y a personne au bureau en ce moment. Déconne pas, je prends la liberté, je te pousse la ligne de quelques centaines de milliers d'euros dont tu as besoin et rends-les-nous vite.
Incroyable.
Et donc on passe l'hiver. Et là, on repart, mais la résilience, mais encore plus fort que jamais, en disant bon, on s'est fait avoir. C'est comme ça qu'on apprend. Et donc on boucle le tour de levée de fonds en mars ou avril, mais dur hein, parce que tu t'es défocusé, donc tes chiffres sont un peu moins bons,
ouais.
T'as eu des problèmes de cash, t'as pas le moral, tu t'es dit
Et puis les fonds sont pas idiots hein, quand t'as quelques centaines de milliers d'euros sur ton compte en banque, ils en profitent aussi.
Tu t'es dit, je me suis loupé sur le choix que j'ai fait, t'es pas fier quoi. Donc c'est un peu dur d'aller faire un roadshow et de dire on est au top, prêtez-nous de l'argent, ça va bien se passer. Mais on fait le job et surtout, et ça c'est super je trouve, parce qu'en France on n'en a pas assez des trucs comme ça, c'est que là on tombe sur des fonds qui nous disent vous avez connu un échec, génial, c'est hyper formateur, on trouve ça extraordinaire que vous ayez autant mangé la poussière et que vous soyez debout maintenant, et ça nous rassure énormément, donc évidemment on vous suit. Et donc on fait la levée et l'histoire repart. Mais voilà, donc ça c'était un échec qui s'est transformé in fine en quelque chose de positif.
Et toi à titre personnel, il y a eu un moment où tu as eu peur que la boîte ferme à ce moment-là ou quand même pas? Quand tu ne peux pas payer les salaires de tes 100 collaborateurs, là?
Non, parce qu'on ne pouvait pas payer les salaires, parce qu'on avait
parce qu'on avait fait d'autres choix. Il y a toujours des procédures de sauvegarde et tout ça, mais, en tout cas. Mais...
Ouais, non, et puis on n'était pas là, parce qu'en fait, quand tu... il y a des boîtes bien plus grandes, mais quand tu arrives sur des chiffres d'affaires de 50, 60 millions, le montant de salaire mensuel, c'est in fine pas grand-chose par rapport à ce que tu arrives à rentrer au quotidien ou dans la semaine, etc. Donc en fait, il faut faire les bons arbitrages pour remettre l'argent au bon endroit. Mais ça revient à se dire, il faut peut-être couper le marketing pendant 15 jours, des choses comme ça. Mais donc non, on n'était pas...
Mais
ça te met quand même un gros rappel sur une connerie comme ça, amplifiée, ça peut effectivement
t'amener
au tapis.
Ouais. Puis si tu ne tires pas la sonnette d'alarme vite...
Exactement.
Très bien.
Puis, enfin, de toi à moi, si c'était aussi catastrophique, la BNP, en l'occurrence, ne nous aurait pas prêté... Mais moi, ils ont...
Bien sûr.
C'est là où c'est hyper important. C'est, je pense qu'il ne faut absolument pas se moquer des gens avec qui on travaille et pas mentir sur les situations que tu peux avoir. Donc, on a toujours dit on va faire ces trucs-là. Quand c'était hyper positif, on le faisait. Et quand ça allait mal, on l'expliquait. Et bon, voilà, la confiance a payé, quoi.
Est-ce qu'il y a quelque chose, si c'était à refaire, que tu referais complètement différemment? Ça peut être à titre perso, d'ailleurs, aussi. Donc, j'ai compris que ce n'était pas l'accident de vélo, ça tu... tu ferais ce fameux...
Non, je pense que
trick.
Je... Alors, j'ai 4 petits garçons, l'aîné à 5 ans.
On n'a pas parlé, ouais.
Le dernier à 7 mois. ça a été un déclic pour moi, donc j'ai eu le premier à 30 ans. En fait, je pense que j'ai compris trop tard que c'était quand même hyper important de se donner du temps pour la vie perso. Alors déjà, juste parce que passer du temps avec ses proches, c'est quand même sympa, mais aussi parce que si on revient à ce dont on parle là, quand tu es entrepreneur, c'est quand même très important de marquer des temps de pause, de récupération, s'oxygéner. Et là-dessus, j'ai pas été bon non plus, parce que j'ai eu moi un super enseignement plus jeune, qui est l'école du sport. Et maintenant, je compare souvent en fait mon job et le job des entrepreneurs à celui d'un athlète de haut niveau, qui a des objectifs. Qui donne beaucoup pour les atteindre, qui parfois ne les atteint pas et doit se relever pour repartir. Mais un athlète de haut niveau aussi, s'il n'y a pas de phase de récupération, c'est ce qu'on dit dans le sport, il se crame.
C'est vrai.
Il a tellement donné à un moment que le corps ne peut plus suivre. Tu vois, tu parlais de burn-out tout à l'heure.
Bien sûr.
Et l'entrepreneuriat, c'est exactement la même chose. Et je pense que, voilà, donc je l'ai compris maintenant et j'essaie de me donner plus de temps, mais si je devais refaire un truc, bon, c'est fait maintenant, mais si je devais donner un conseil, c'est quand on entreprend, oui, il faut se donner à fond dans sa boîte, mais il ne faut pas oublier que la récupération, ça fait partie du job.
Bon, après, tu t'en es rendu compte assez jeune parce que tu n'as pas non plus 75 ans. Enfin, tu vois, j'ai eu Jacob Abou sur le podcast qui m'a dit un peu la même chose, mais lui, voilà, il a 75
ans. Non, mais ça fait 15 ans que j'entreprends et ça crame quand même.
Ça fait un moment, ça fait peu de temps que tu t'en es rendu, enfin, que tu te l'es formé.
5 ans. J'aurais peut-être dû le faire 5 ans plus tôt. Mais bon, ça va.
Ça va. Je suis sûre que tu rattrapes le temps perdu maintenant. Une maxime ou des mots de sagesse que tu aimerais nous partager, si tu en as, qui te viennent à l'esprit ?
Il y en a une que j'aime beaucoup, je vais essayer de ne pas la déformer, c'est « ils l'ont fait car personne ne leur avait dit que c'était impossible ».
Oui.
Bon, elle est connue, hein, mais...
elle est géniale.
Elle est géniale. J'adore, parce que je pense que trop souvent, on s'arrête à... Ah ouais, mais non, mais laisse tomber, ça, y a des indices qui ont essayé, ça marche pas. Ou mais attends, t'es sûr que t'as étudié ton marché ? Et en fait, je pense que les plus grosses opportunités sont là où la majorité voit un truc impossible.
Mmh. C'est sûr.
Et donc j'aime beaucoup celle-ci. Et après une, alors que je vais à mon avis totalement déformée, mais parce que je crois qu'elle existe de je ne sais pas qui avant moi, mais bon, j'aime dire que spontanément, non, c'est le plus grand risque, c'est de ne pas en prendre. Mm. Je me dis ça souvent quand j'ai des décisions à prendre, donc tout en gardant le truc sous contrôle et sans partir dans des risques trop importants, mais je pense que c'est quelque chose de fondamental.
T'as eu des regrets justement de choses que t'as pas faites, que avec le recul maintenant tu te dis j'aurais eu envie de le tenter, ce truc-là ?
Non, je regrette rien. Je regrette rien parce qu'à chaque fois que j'ai pris des tôles ou des gros coups durs, en fait j'ai appris et ça m'a permis de structurer les choses différemment, ouais. Derrière, et je pense que c'est hyper formateur. Et puis je pense qu'il faut pas regretter. Je regarde devant. Je sais que je prendrai d'autres tuiles et qu'on fera d'autres bêtises, mais ce qu'il faut, c'est se relever, comprendre, analyser et essayer de faire différemment.
Dernière question, les livres ou le livre que tu recommandes le plus autour de toi, qui t'ont le plus marqué et dont tu peux me parler ?
Alors, c'est un livre qu'on m'a offert il y a quelques années et que j'ai pas mal offert depuis, qui s'appelle Delivering Happiness.
Ah oui, je l'ai lu, génial.
Tony Hsieh. Et alors la version française, c'est l'entreprise du bonheur, ouais, je crois. Alors Tony Hsieh, pour info, c'est le fondateur de Zappos, qui est un super site de vente en ligne, notamment de chaussures, enfin historiquement, et puis qui a été racheté par...
Ah, je comprends mieux l'expérience client.
Par Amazon. Oui, alors...
Alltrix.
Ça peut paraître prétentieux de dire ça, mais c'est pas moi qui l'ai dit, et puis je pense que c'était en toute petite partie, mais quand on m'a offert le bouquin, on m'a dit, écoute, lis ce bouquin, ça va t'amuser, il y a plein de trucs dedans que vous faites déjà. Et alors effectivement, il y a 1 million de trucs extraordinaires dans ce bouquin, et peut-être 4-5 qu'on faisait déjà. Mais ça a été une bible pour moi, parce que ce bouquin est extraordinaire. Peut-être partager une ou deux anecdotes du bouquin, mais donc effectivement, comme tu dis, c'est un bouquin qui est hyper focalisé sur l'expérience client. Mm. Et en quoi l'expérience client est un moteur pour les collaborateurs, pour les clients évidemment, et une source de croissance extraordinaire pour une entreprise. Et moi, il y a deux choses qui m'avaient marqué parce qu'on n'était pas très loin de ça. La première, c'était Zappos qui expliquait qu'il déménageait régulièrement pour suivre les entrepôts FedEx et être juste à côté, parce que ça les faisait sourire d'enregistrer des commandes à 1h du matin, de les préparer entre 1 et 3 parce qu'ils bossaient la nuit, de les injecter chez FedEx à 3h du matin, ça partait en aérien, et le client était réveillé par le livreur à 7h ou 8h du mat qui amenait le colis. Et je trouvais ça extraordinaire. Et la deuxième, c'était à quel point ils poussaient au bout du bout le service client. Et l'anecdote expliquait que donc Tony Hsieh disait à ses équipes, quelle que soit la demande à laquelle vous pouvez faire face au service client, répondez-y, est-ce que vous allez faire un client satisfait, même si directement ça apportera rien au business, il gardera une bonne image de nous et il reviendra. Et ils étaient donc très connus pour être quasiment le meilleur référenceur des pizzerias du coin. et on les appelait régulièrement pour dire cherche une pizza, où est-ce qu'il y en a une, et donc les gens chez Zappos, j'imagine, cherchaient ligne l'adresse la plus proche et donnaient l'adresse, et je trouvais ça extraordinaire.
Non mais c'est vrai, moi je me rappelle, ça m'avait inspiré aussi. Il y a une autre anecdote sur le fait qu'il dit à un moment donné, le téléphone est complètement has-been sur les e-commerçants, parce qu'on se dit que ça coûte très cher d'avoir des équipes, tu vois, qui répondent au téléphone, etc. Elle lui dit, mais en fait, si t'as une conversation téléphonique avec quelqu'un pendant 20 minutes et que vraiment tu crées un contact, une connexion avec cette personne, mais en fait même si elle achète pas là, mais c'est sûr qu'elle va devenir client un jour.
Le lien est créé, ouais.
Exactement, ouais. Donc voilà, ce genre de choses. Écoute Gary, merci beaucoup, c'était absolument passionnant. Si
merci
on veut te trouver sur le monde du web, on va évidemment voir déjà le site d'Alltrix si on n'est pas déjà client, on fait pas partie des 75% de clients récurrents,
évidemment.
On y va.
Ah, je pense qu'on a beaucoup de clients à aller chercher encore. Et sinon, personnellement, je suis plutôt actif sur LinkedIn.
Ok.
Gary Ancens. Et plus modestement présent sur Twitter.
Et ben, je mettrai ces petits liens. Et je te remercie mille fois.
Merci
à bientôt.
Beaucoup.
Et voilà, fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé tout ce temps avec moi. Et quelques petites choses avant de vous quitter. D'abord, si vous cherchez les notes de l'épisode avec toutes les références, bah c'est simple, allez directement sur le blog du podcast. Donc c'est www.le-du6gratin.fr. Vous trouverez normalement toutes les infos dessus. Aussi, si vous souhaitez me contacter pour me poser d'autres questions, que je mettrai d'ailleurs peut-être un jour sur le podcast, ou me proposer de nouveaux invités, ou juste me faire un feedback, me proposer un livre, peu importe à la rigueur, et bien surtout, n'hésitez pas à le faire. J'aime bien répondre. J'essaye d'être assez active sur les réseaux sociaux et en particulier sur LinkedIn et sur Instagram qui sont mes deux réseaux sociaux de prédilection. Donc sous le pseudo Pauline Léniaud, tout attaché, c'est très simple. Dernière chose, un truc qui compte énormément pour moi et je sais que c'est pénible à faire mais vraiment ça compte, c'est si vous me laissez une note 5 étoiles ou que vous parlez du podcast autour de vous ou que vous mettez un avis. Et la note 5 étoiles, c'est en particulier sur Apple Podcast, sur iTunes. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'il y a le plus d'écoute et avoir des notes en fait permet de donner plus de visibilité au podcast. Donc vraiment, vraiment n'hésitez pas. Et si on est si nombreux aujourd'hui à écouter Le Gratin, à faire partie de cette communauté, bah c'est grâce à vous et justement à toutes ces personnes, c'est plus de 3000, 4000 personnes qui ont à chaque fois pris le temps de mettre des notes, donc ça m'aide beaucoup et merci à eux. Comme à chaque fois, vraiment un grand grand merci de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère que l'épisode vous a plu et je vous dis à très bientôt.